Vous avez peut-être des questions? Je réponds d'abord à celles qui sont là. Qu'en est-il des psaumes et de la prière chrétienne? C'est vrai que c'est pas très beau. Bon. Vous vous rappelez qu'on avait parlé du nom divin? Les psaumes, quand vous prenez la prière des psaumes, ça c'est votre prière. Alors, c'est une parole qui suscite votre propre prière. Et le problème est réglé. Soit c'est la prière, et à ce moment-là, vous la recevez. C'est la prière du Christ que vous recevez et dont vous êtes vous-même, que vous offrez. Vous voyez, comme toute... Je crois qu'il est plus très lisible. Mais... Comme tout acte extérieur, je prends la prière, elle est extérieure. C'est la prière du psautier, c'est pas la mienne. Mais le fait qu'elle vienne sur mes lèvres, parce que je la reçois, bien, elle invite à un acte intérieur, qui est celui de la prière, ça c'est évident. Et oui, je pars, vous prenez la liturgie chrétienne, vous prenez la liturgie des heures, c'est justement quelque chose, c'est la parole de Dieu dont je me sers comme d'un sacrement, comme d'un sacrement dont je m'en sers. Elle doit susciter en moi cette attitude intérieure de prière, et elle n'a de prix que dans la mesure où elle le suscite, mais elle est plus que ma seule prière. Vous comprenez? La prière que je reçois, parce que c'est la parole de Dieu, elle apporte à ma prière intérieure un quelque chose de plus, parce qu'elle me fait toucher la prière du Christ. Ça, c'est toute la tradition de l'Église. Je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu. Une autre question sur la prière. Oui, parce que j'avais laissé entendre que la prière devait être éclairée par l'espérance. Et que s'il n'y avait pas d'espérance, notre prière, elle était blessée. Mais comment prier quand on est désespéré? Je distingue le désespoir devant une épreuve. Ça ne touche pas forcément la vertu théologale d'espérance. Mais le désespoir, c'est... Ben, on est devant un mal tel que je n'arrive pas à le... Je ne peux pas le dominer. Il me domine. Ça, c'est tout le cœur humain qui est comme inhibé. Mais je suis un enfant de Dieu... Par la grâce du Christ, l'espérance demeure. Pour perdre l'espérance, il faut faire un acte positif. Il faut la refuser. C'est tout à fait autre chose. Et donc, on doit prier. Hein. On doit toujours prier. Prier sans cesse. Et là, ça touche toute la prière. Hein. Toute la dimension, comment ça pourrait dire, ascétique, psychologique de notre vie chrétienne. Hein. Oui, à propos du plan divin et la place du sacerdoce du Christ par rapport à l'humanité et la place de l'Église. Oui, je crois qu'il faut faire ce destructeur. C'est vrai, quand, après ce que nous avons dit, on réfléchit un petit peu sur le lien entre l'humanité et Dieu. Hein. L'humanité qui est blessée par le péché et étant pécheresse, ne peut plus offrir à Dieu un culte qui lui plaise. Donc, on pourrait dire que dans son retour à Dieu, il y a comme une rupture qui fait que l'humanité ne pouvait pas, ne peut plus offrir à Dieu un culte qui lui plaît, à cause du péché. Et c'est tout le mystère du Christ. Le mystère du Christ, c'est que lui, par son adoration, l'exemple de l'adoration, par son adoration, il a réparé l'offense faite à Dieu par le péché. Donc le Christ, il a sauvé, comme on dira, il a sauvé l'humanité. Parce que sa prière, son culte, est à glorifier Dieu d'une façon telle que toute offense est réparée. Mais le Christ n'a pas fait que ça. Il nous a donné son esprit. Vous savez cette parole que le Saint-Père dans son encyclique sur Saint-Esprit dit « Il est bon pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, dit Jésus, je ne pourrai pas vous envoyer paraclet. » Donc, son départ est nécessaire pour le don du Saint-Esprit. Alors, quel est ce départ? Et alors, le pape d'expliciter, c'est le mystère de la croix. Si je ne m'en vais pas, vous ne pourrez pas recevoir le paraclet. Parce que si je ne fais pas l'offrande de la croix, c'est-à-dire si je ne vous sauve pas, si je ne répare pas l'offense du péché, vous ne pourrez pas recevoir le paraclet, l'Esprit Saint. Donc, le Christ non seulement nous sauve, c'est-à-dire qu'en lui, toute faute a son pardon, mais en plus, il met en nous un esprit d'amour qui nous permet d'offrir un culte à Dieu, comme nous l'avons dit ce matin, un culte en vérité, dans la foi, l'espérance et la charité. Oui, donc le mystère de la croix, il est réalisé, et ça c'est une fois pour toutes. Le mystère de l'Esprit Saint, voilà le culte nouveau que le Christ est venu établir et nous a donné cette source d'eau vive qui devient source jaillissante en nous puisque par l'Esprit Saint que nous avons reçu, on devient capable d'offrir à Dieu un culte qui est le culte des fils, cette adoration en esprit vérité. Est-ce que ça, c'est à peu près clair? Vous voyez, le don du salut, ça c'est acquis. Tout homme dans le Christ est sauvé. Et le don de l'Esprit qui nous permet à notre tour d'offrir un sacrifice, une religion en esprit et vérité, une religion filiale, et à notre tour de glorifier Dieu. Parce que nous pouvons rendre un culte. Celui du Christ nous a sauvés, mais le nôtre permet de glorifier Dieu. Bon. Donc vous voyez, le Christ permet à l'humanité de revenir à Dieu. C'est le Christ qui, par son salut et par le don de l'Esprit, nous permet d'offrir le culte véritable en justice, en justice. Je prie ma piété, ma religion, répare le dû et vraiment celle d'un fils. Au niveau théologique, je sais pas, on parlera de... Ah, ça reviendra. C'est satisfaction et mérite. Le mérite, n'est-ce pas? On mérite même. Et on mérite même que Dieu nous aime. C'est fort. Parce que par le Christ, nous recevons de lui la capacité de prier Dieu comme Dieu doit être prié. Est-ce que ça
Ça répond. Enfin, vous voyez la place du Christ. L'homme ne peut plus rendre à Dieu ce qui lui est dit. Le Christ, c'est le chemin, l'unique. Alors, quelle est la place de l'Église? L'Église, c'est le Christ continué. L'Église, c'est le mystère du Christ, c'est le plérôme du Christ. C'est le Christ qui veut, dans le temps d'aujourd'hui, se servir des hommes pour que par eux, l'humanité retourne à Dieu. Ça, c'est tout le mystère, ce qu'on disait, du sacerdoce. La médiation du Christ, c'est donc cette médiation du prêtre. Qui dit prêtre, dit au nom des hommes. Au nom des hommes. Mais, vous voyez maintenant, quelle est la relation entre chacun de nous et l'Église? Quel est notre lien à l'Église? Et quelle est la relation entre le culte que nous devons offrir et celui que doit offrir l'Église? Est-ce que le prêtre, l'office du prêtre, il remplace le culte de chacun? Qu'est-ce que vous répondriez?
Globalise.
Oui, mais est-ce que ça remplace? Non, ça ne remplace pas. Hein? Puisque c'est l'humanité, on avait pris chacun des degrés, la personne, la famille, la cité, l'humanité. Chacun a une dette envers son créateur. Cette dette, elle demeure. Chacun, la famille, il faudra qu'elle réponde comme famille, la cité comme cité, l'humanité. Alors le Christ, il sauve tous les hommes. Et il donne à chacun des hommes son Esprit Saint. Bon. Ce qui fait que chacun peut offrir à Dieu le culte qu'il doit rendre. C'est ça ? Ce qu'on dira. Cette adoration en esprit et vérité, disons si vous voulez, cette vie théologale de foi, d'espérance et de charité. Chaque personne humaine est appelée à cette adoration en esprit, cette adoration des fils. Voilà. Et peut, et a reçu du Christ, et la vertu de son salut, et la puissance nouvelle de vie, pour adorer en esprit et vérité. Tandis, le prêtre, il agit au nom de l'humanité entière, de tous les hommes. Il agit au nom de tous les hommes. Alors, le Christ, l'Église, devra toujours continuer cette œuvre. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un pour que l'humanité entière, parce que dans le dessein de Dieu, cette humanité doit être rassemblée. Il faut que tous les hommes soient un. Eh bien, c'est par le culte de l'Église, par le culte chrétien, que l'Église offre ce sacrifice pour tous les hommes. Donc, les deux choses demeurent, et individuelles, et le mystère de l'Église. Et nous avions besoin du prêtre pour être sauvés, et pour recevoir l'Esprit Saint. Mais l'Église poursuit ce mystère. Posez-moi vos questions si ce n'est pas assez clair. Vous voyez, on a à comprendre cette médiation que Jésus a réalisée entre tous les hommes. Quand je dis l'humanité, ça me gêne. Tous les hommes et son Père, cette médiation-là, elle a eu une efficacité et qui est finie, celle-là. Elle est réalisée. Mais tant que prêtre, c'est-à-dire celui qui rend le culte au nom de tous les hommes, mais en tant qu'ils sont un sous le regard de Dieu. Ce sacerdoce-là, il s'exerce dans l'Église. Oui. Donc, l'Église ne remplace pas, la prière de l'Église ne remplace pas la prière des hommes, mais elle apporte, comment dirais-je, ce culte. C'est un terme qui ne nous est pas connaturel. Cette adoration au nom de tous les hommes. Le chrétien est responsable de l'humanité entière. Le chrétien, il agit pour tous les hommes. Et chacun. C'est pas parce que chacun adore, vous voyez, que chacun adore, il faudrait encore que tous les hommes d'aujourd'hui adorent dans leur prêtre. Vous voyez, la cité, il faudrait qu'elle reconnaisse sa dépendance. Il faudrait que les hommes devant Dieu reconnaissent que sous son regard, ils doivent être un dans l'adoration. C'est pour ça que l'Église, la vocation de l'Église demeure. Est-ce que c'est clair ça? Vous voyez, le sacerdoce de l'Église qui est être médiateur dans le Christ du retour de l'humanité au Père. C'est l'Église qui permet, vous voyez, comme le prêtre qui s'adresse au nom de tout son peuple, c'est l'Église qui permet à tous les hommes de demeurer un sous le regard du Père, si vous voulez. C'est important parce que c'est tout le mystère de... Dans Lumen Gentium, on dit très clairement ce que le mystère de l'Église, n'est-ce pas, le sacrement. Le Christ est la lumière des peuples. C'est le numéro un, juste les premiers. Réunis dans l'Esprit Saint, le Saint-Concile souhaite ardemment, en annonçant à toute créature la bonne nouvelle de l'Évangile, répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. Et cette clarté qui resplendit sur l'Église, le Concile voudrait qu'elle soit répandue à tous les hommes. L'Église étant dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Elle se propose, et alors il explique la suite, se propose de préciser davantage pour ses fidèles et pour le monde entier. Vous voyez, donc, il est venu rassembler ce qui était dispersé. C'est ça le mystère du Christ. Eh bien, tous les hommes, par l'Église, sont rassemblés sous le regard du Père. Tous, pas simplement ceux qui le veulent. Tandis que seuls ceux qui connaissent le Christ peuvent adorer en esprit et vérité. Mais tous les hommes, vous voyez, quand la cité... Quand la famille, quand le père de famille prie, le petit gosse qui dort, il dort. Mais il est porté dans cette médiation. Eh bien, l'Église porte l'humanité entière, c'est son rôle. Elle a été choisie pour être la médiatrice, pour que sa prière, son sacrifice, porte l'humanité entière devant le Père. L'Église rassemble toute l'humanité à cause du mandat qu'elle a reçu du Christ et l'offre au Père. Et c'est sa prière qui est salvifique, dirait le Saint-Père. C'est sa prière qui sauve ceux pour qui elle prie. Mais, donc, pour revenir au mystère du sacerdoce, que l'Église est comme désignée,
mettons en prêtre, mais mettons l'Église,
pour être le plérôme du Christ, c'est-à-dire la plénitude, pour apporter au sacerdoce du Christ, pour permettre au sacerdoce du Christ d'atteindre toute sa plénitude. Alors, je ne sais pas, oui, j'espère que je réponds un petit peu. Hein? Oui. Oui, alors justement. Oui, je vais y venir là. Je fais exprès de rester très flou, parce que pour moi, c'est le sacerdoce, c'est l'Église. Pour le moment, j'en suis à l'Église. L'Église. Vous aussi, oui. Chacun de nous. C'est ce qu'on dit. Oui, non, mais vous avez raison. Mais c'est ce que je voudrais d'abord comprendre, c'est, vous voyez, c'est l'Église que Paul dit être le plérôme du Christ. Du sacerdoce du Christ. Alors maintenant, on va essayer de comprendre comment achève-t-elle. Alors, c'est là qu'il faut, il faut revenir au texte de Lumen Gentium. Cette question, je vais y répondre après. Je reprends donc le numéro 10. Le Christ Seigneur, grand prêtre, pris d'entre les hommes, a fait du peuple nouveau un royaume des prêtres pour son Dieu et Père. Voilà, le Christ a fait du peuple nouveau, si vous voulez, l'Israël nouveau, un sacerdoce, un royaume des prêtres pour son Dieu et Père. Lui, le prêtre, a fait du peuple nouveau un royaume de prêtres. Et alors tout de suite il dit, les baptiser, en effet, par la régénération et l'onction du Saint-Esprit, exprès de distinguer le salut et l'onction du Saint-Esprit, sont consacrés. Vous voyez, il y a quelque chose de particulier. Pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint, pour être le temple où est rendu le culte qui plaît à Dieu, et le sacerdoce, c'est-à-dire le prêtre, pour offrir par toutes les activités du chrétien autant de sacrifices spirituels et proclamer les merveilles de celui qui des ténèbres les a appelés à son admirable lumière. C'est pourquoi tous les disciples du Christ persévérant dans la prière et la louange doivent s'offrir en victime vivante, sainte, agréable à Dieu, porter témoignage du Christ sur toute la surface de la terre et rendre raison sur toute requête de l'espérance qui est en eux d'une vie éternelle. Voilà la vie du chrétien. Hein? S'offrir en victime vivante, sainte, agréable à Dieu. Porter témoignage sur toute la surface de la terre et rendre raison sur toute requête de l'espérance qui est en eux d'une vie éternelle. Sacerdoce, prophétique et royal. Vous voyez, alors, c'est là qu'il faut essayer de rentrer. Le baptême, l'Église. Si vous regardez ce qu'était le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël avait été un peuple choisi par Dieu pour apporter à toutes les nations l'espérance du salut. C'était la vocation d'Israël. Vocation d'Israël, Israël a accaparé cette vocation de telle sorte que n'était sauvé que celui qui était juif. C'est pour ça que Jésus est si sévère à l'égard de Nicodème. Nul, s'il ne renaît de l'eau et de l'esprit, ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pas parce que tu es juif que tu es sauvé, parce que tu es né de l'esprit et de l'eau. Alors, l'Église, c'est le nouvel Israël. L'Église, c'est ce nouveau peuple choisi par le Christ pour apporter au monde entier cette espérance du salut. Comme témoin, au niveau prophétique, parce que le Christ, lui, a annoncé l'Évangile et il se sert de l'Église pour annoncer l'Évangile. Mais le premier élément, c'est s'offrir en victime vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est donc la première vocation de l'Église, c'est de, en communion avec le Christ, ce sacerdoce qui porte l'humanité, qui porte tous les hommes vers Dieu. Et cela, c'est par le baptême. Le baptême, c'est cet acte du Christ à travers son Église qui s'appelle des prêtres, qui s'appelle des disciples, c'est-à-dire ceux qui acceptent de le suivre dans son sacerdoce. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure à table, vous avez remarqué, le cardinal Ratzinger disait ça, puisque le Christ est le seul prêtre, lui seul peut appeler des prêtres. Enfin, c'est son sacerdoce. Il n'y a que lui qui peut choisir ses prêtres. Il n'y a que lui. C'est son sacerdoce qui demeure, qui s'exerce dans l'Église. Donc, seul le Christ peut s'appeler ses prêtres. Ce n'est pas un homme qui peut considérer qu'il est prêtre. Seul le Christ. Et comment le fait-il ? Eh bien, c'est le baptême. Par le baptême, le Christ agit dans son Église et députe, pardon pour ce mot, députe, c'est-à-dire donne une mission au baptisé. Le baptisé est celui qui a été choisi pour être le pléroma du Christ. Il a été choisi pour être l'accomplissement du Christ dans le monde où il est. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel s'affadit, avec quoi pourra-t-on saler ? Vous êtes la lumière du monde. La lumière, nous devons la mettre sur le lampadaire. On ne la met pas sous boisson. C'est clair. Donc, ce sacerdoce du Christ, il ne peut s'exercer que par l'Église et par ceux que le Christ a choisis. Voilà l'Église, dans le baptême. Le baptême, donc, le rôle propre du baptême, c'est de donner un caractère caractère baptismal qui fait qu'on est fait prêtre. Notre âme est changée pour être capable d'être l'accomplissement du sacerdoce du Christ. Pour être l'accomplissement du Christ. Pour être complémentaire du Christ. On est changer pour être associé au Christ, pour être les instruments du Christ, si vous voulez. Ce caractère, saint Thomas dit que c'est comme une puissance de l'âme.
Oui, juste avant, tu disais que ce culte nouveau, il est possible grâce à l'esprit, oui. À cette onction.
Oui. C'est pour ça que j'ai distingué le culte du chrétien dans la foi, l'espérance et la charité de tout homme par la grâce, parce qu'il a donné à tout homme, de celui de l'Église qui va être le culte au nom de l'humanité. Je crois que c'est très important de comprendre ça. Tout homme doit, même celui qui ne croit pas, la grâce suscite en lui une attitude de vérité profonde qui fait que, vous verrez ça demain, il est en harmonie avec l'Esprit Saint. Certes, il n'y a pas une plénitude, il ne sait pas. Il ne peut pas, il ne sait pas ce qu'il est. Mais il est l'Esprit Saint, même dans le non-baptisé, suscite en lui, la grâce suscite en lui une attitude qui le fait prier et qui le fait offrir à Dieu un sacrifice véritable. Mais l'Église, c'est autre chose. L'Église, elle agit au nom de tous les hommes. Là, on vit du sacerdoce. Là, on exerce le sacerdoce. Le prêtre n'est pas dispensé d'adorer. Il doit adorer. Il doit prier. Mais quand il agit comme prêtre, il agit pour d'autres. Donc, vous voyez, il y a deux choses. Il y a l'attitude de tout homme qui doit s'achever dans la foi, l'espérance et la charité. Et il y a l'attitude du prêtre qui est homme, mais qui en plus est mandaté pour que son offrande soit salvifique pour l'humanité. Il a été choisi. Vous voyez, quand vous prenez... Bon, nous sommes tous des Français. Supposez que je sois chef d'État, ça répond à mon désir de grandeur, et que l'un d'entre vous, je le prends et je lui dis, toi, tu seras mon ambassadeur. Ben, je prends parmi les Français, et l'un d'entre eux, je le prends et je l'envoie, je lui charge d'agir au nom de la France auprès de tel pays. Il est représenté, représentatif, il est député pour agir au nom. Eh bien, le chrétien, il est député par le Christ pour être prêtre. Mais le prêtre, vous voyez, il faut absolument distinguer l'offrande du prêtre. Le prêtre, c'est celui qui offre. Vous voyez, il faut distinguer l'enfant de Dieu du prêtre. Le prêtre est enfant de Dieu. Et il doit vivre en enfant de Dieu. Celui qui, prenons l'exemple du prêtre, du prêtre ministre qui célèbre l'Eucharistie, il a le droit d'y assister aussi. Hein? Ça lui est même conseillé. Parce qu'il faut qu'il comprenne que c'est une chose d'être ministre, mais c'est mieux. C'est mieux d'être. Vous voyez, par rapport. Le sacerdoce, c'est pour les fidèles. Donc, s'il n'est pas fidèle lui-même, c'est ennuyeux. Vous voyez, alors la question est là. Une chose de recevoir la grâce du Christ, l'Esprit Saint, qui nous fait offrir à Dieu un culte, comme on avait dit ce matin. N'est-ce pas ? Ce culte en esprit et vérité. Autre chose, cet exercice du sacerdoce, c'est-à-dire que j'agis pour d'autres. Ça va ? Je crois que c'est important. Donc, certes, le prêtre doit être fidèle. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, son offrande, qu'est-ce qu'elle sera ? Ce qu'il va agir, il va faire un acte cultuel, c'est un acte extérieur, mais est-ce que cet acte extérieur va prendre quelque chose de l'intérieur ? Oui, il faut que ça prenne son intérieur. Le prêtre doit se donner dans son intérieur pour que toute son attitude, tous ses sacrifices, aient une valeur. Mais oui, maintenant je regarde. Le baptiser. Le baptiser. Vous dire, enfin, le baptême, c'est le baptême qui fait l'enfant de Dieu. Vous distinguez le baptême et l'enfant de Dieu. Le baptiser l'enfant de Dieu. Ça ne va pas. Mais comment vous expliquez que pour les adultes, on attend qu'ils puissent prouver leur foi pour les baptiser? Ce qui prouve que ce n'est pas le baptême qui leur aura donné la foi. Parce que je leur demande la foi avant de les baptiser. Croyez-vous. S'ils croient, c'est qu'ils ont la grâce. Et ils ont eu la grâce sans le baptême. Oui, ils ont eu la grâce sans le baptême. Alors c'est inutile de le baptiser? Si. Parce que le baptême fait de lui un prêtre. Tout à fait autre chose. Le baptême le choisit parmi d'autres, lui donne une vocation, l'appelle à suivre le Christ dans son sacerdoce. Ça ne supprime rien des exigences de foi, d'espérance et de charité. Au contraire, ça les avive. Et saint Thomas dit, mais enfin, le baptême donne la grâce. On a pris ça. Hein? Le baptême enlève la tâche du péché originel et donne la grâce. Saint Thomas dit, le baptême donne le caractère, mais il donne la grâce à celui qui ne l'a pas. Mais le premier rôle du baptême, c'est le caractère. Parce que le premier rôle, le pourquoi du baptême, c'est de consacrer un prêtre. Pas pour rien qu'après le baptême, on fait l'onction du Saint-Crème. C'est la même onction qui fera le prêtre. Qui va marquer les prêtres. Le rôle propre du baptême, c'est de faire le prêtre. Mais vous prenez, c'est exactement comme si moi je prenais l'un d'entre vous, craque le coréen, je dis, toi, tu seras ambassadeur de France. Alors, pour être ambassadeur de France, d'accord, mais je te fais d'abord un passeport français. Ben, de même. Je prends un petit, supposé qu'il n'ait pas la grâce, par l'Église, le voilà, on le députe, et bien le Christ lui donne la grâce. Parce qu'il ne peut pas exercer son caractère sans la grâce. Vous voyez? Il ne donne pas la grâce et ensuite il fait de nous un prêtre. Il fait de nous un prêtre, c'est pourquoi il nous donne la grâce si on ne l'a pas.
Donc c'est indépendant de la foi des parents.
Le baptême a toujours été indépendant en soi de la foi des parents, mais l'Église demande la foi des parents, pourquoi?
Oui, pour l'enseigner après, mais en fait...
Mais non, parce que l'enfant ne pourra pas exercer son sacerdoce s'il ne prend pas conscience de sa dignité. Si moi je ne sais pas que je suis prêtre, qu'est-ce que vous voulez? Je n'exercerai jamais ce sacerdoce. Je n'exercerai pas. J'ai besoin de quelqu'un qui me dit, mais n'oublie pas ta dignité. N'oublie pas que toute ta vie, elle est maintenant relative à l'humanité d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, le baptême fait l'Église sacrement, cette Église plérôme du Christ, en députant chacun, en lui donnant l'onction sacerdotale. Alors on dit, ils doivent s'offrir en victime vivante, sainte, agréable à Dieu. Chaque homme doit pouvoir offrir. Chaque homme, chacun qui est dans la grâce, baptisé ou non, il peut toujours s'offrir. Il peut toujours s'offrir. Offrir un sacrifice, comme on l'a dit ce matin. Le propre du baptisé, c'est que cette offrande, elle est sacerdotale. C'est-à-dire, elle a un prix pour l'humanité. J'espère que ça, c'est à peu près... Les baptisés, par la régénération de l'onction, sont consacrés pour être une demeure spirituelle, un sacerdoce saint, pour offrir par toutes les activités du chrétien autant de sacrifices spirituels. Voilà. Alors maintenant... Distinguons avec le sacerdoce ministériel. Le sacerdoce commun, tiens. Le sacerdoce commun des fidèles. C'est-à-dire celui que nous avons en commun prêtre et laïc. Le sacerdoce baptismal. Et le sacerdoce ministériel. Là, un autre sacrement. L'ordre. L'ordre, il porte sur des baptisés. Tu ne peux pas ordonner quelqu'un qui n'est pas baptisé. Et donc, de même que les baptisés sont choisis dans le monde, de même les ordonnés sont choisis dans les baptisés. Le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique. Bien qu'il y ait entre eux une différence essentielle, et non seulement de degré, c'est pas du plus et du moins, c'est essentiellement distinct, sont cependant ordonnés l'un à l'autre. L'un et l'autre, en effet, chacun selon son mode propre, participe de l'unique sacerdoce du Christ. Donc, le baptême me fait participer du sacerdoce du Christ. L'ordre me fait participer du sacerdoce du Christ. Je participe différemment. Celui qui a reçu le sacerdoce ministériel jouit d'un pouvoir sacré pour former et conduire le peuple sacerdotal. Premièrement, former et conduire. C'est pour ça qu'on dira sacerdoce hiérarchique. Ordre, l'ordre, ça met un ordre. Ça ne supprime pas l'égalité, mais il y a un ordre, il y a un premier, il y a un second. Il jouit d'un mandat, d'un caractère, d'un pouvoir qui lui permet de former et de conduire le peuple chrétien. Le peuple sacerdotal, c'est magnifique. Pour faire, dans le rôle du Christ, le sacrifice eucharistique, in persona Christi, et l'offrir à Dieu au nom du peuple tout entier. Vous voyez, dans l'Eucharistie, le prêtre a un double rôle. Il agit dans la personne du Christ et il agit au nom du peuple. Les fidèles, eux, de par le sacerdoce royal qui est le leur, concourent à l'offrande de l'Eucharistie et exercent leur sacerdoce par la réception des sacrements, la prière et l'action de grâce, le témoignage d'une vie sainte, et par leur renoncement et leur charité effective. Donc, il y a comme deux manières d'exercer le sacerdoce du Christ. Alors on s'arrête. Des minutes.